je m'appelle Thelma, j'ai 7 ans.
Je m'appelle Pablo, j'ai 9 ans.
Et on a monté
Radio Corona pendant le confinement.
L'ordinateur s'installe chaque jour de plus en plus dans notre vie quotidienne. Et quand vous aurez le dos tourné, vos enfants vont s'en donner à cœur joie.
C'est vraiment bien, hein ?
Vous pourrez appeler partout, de n'importe où.
Interfort. Internet, c'est en quelque sorte un centre de documentation à l'échelle de la planète.
C'est pas génial, ça ?
Des dépendances, comme la drogue, c'est dépendant à ça.
Avec cet effet de boule de neige, vous entrez dans ce qu'on appelle les bulles cognitives, c'est-à-dire rester entre personnes qui pensent de la même façon.
Alors là, mon père, il va pas en revenir.
Ils ont entre 10 et 18 ans. Le digital, ils sont nés avec. Parfois, ils le subissent, souvent, ils le subliment. Codes sociaux, rapport à l'autre ou à soi, tout est revisité, repensé, questionné. Ils seront les utilisateurs et les concepteurs des réseaux, algorithmes et innovations de demain. Dès aujourd'hui, leurs opinions, leurs doutes et leurs rêves nous éclairent. Tout est question de philosophie, même les codes les plus binaires. À nous de penser et de repenser ces mondes qui nous effraient ou nous fascinent. Parfois les deux. Bienvenue dans Philosophie, le podcast qui donne la parole aux jeunes générations sur leur rapport au digital et qui encourage leurs aînés à ne pas faire la sourde oreille. Animé par Marilyn Perronnet, fondatrice de Digital School, et moi-même, Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche.
Salut Marilyn.
Salut Solène.
Alors aujourd'hui, on accueille un duo, une sœur et un frère qui sont déjà des pros du micro. Salut Thelma et Pablo.
Bonjour.
Alors finalement, Pablo et Thelma, quand on a 7 et 9 ans, on peut déjà s'exprimer sur une radio. On a besoin d'un micro, d'internet et c'est parti. Comment vous avez créé Radio Corona ?
Au début, moi, surtout, j'avais envie de faire un podcast, mais de lire des histoires, en fait, dans le podcast. Et après, c'est notre maman, elle nous a proposé de faire Radio Corona parce qu'on avait besoin de demander à personne. Parce que pour les livres, en fait, pour lire des livres, il fallait demander aux auteurs et maman, elle n'a pas les contacts de tout le monde. Donc, elle a décidé de faire Radio Corona avec l'info du moment.
Mais en fait, on lui a un peu réclamé. En fait, on lui a réclamé beaucoup de fois de faire un podcast. Et à la fin, elle était énervée, donc elle a dit oui. Et donc après, on a commencé Radio Corona. Au début, on avait des aides de Petit Quotidien. Et au début, je savais pas trop où j'étais, c'était un peu dur, mais après vers le numéro 8, 7, ça s'est un peu plus amélioré et donc j'étais moins stressée.
Et alors juste pour expliquer à ceux qui nous écoutent, votre maman, elle a un podcast?
Oui.
Qui s'appelle
Bliss Story.
Et du coup, vous lui avez piqué ses micros et ses casques?
Oui. Maman, elle fait surtout les épisodes la journée. Et après, elle montait la semaine. Et du coup, nous, en fait, on faisait les épisodes le vendredi. Et après, on les mettait en ligne le samedi. Et au début, moi... j'avais des aides du Petit Quotidien, c'était bien, mais au bout d'un moment, j'avoue, vers l'épisode 7, 8, 9, j'ai commencé à en avoir un peu marre parce que ça me piquait une heure et demie dans le vendredi et voilà. Mais ça a été quand même une super expérience.
Et donc, on a arrêté au numéro 10 parce qu'on en avait un peu marre que tous les vendredis soirs, on fasse...
C'est surtout parce qu'en fait, c'était la fin du coronavirus.
Oui, c'était la fin du corona. Enfin, c'était pas la fin, mais...
La fin du confinement.
Oui, c'était la fin du confinement. Et aussi, on en avait un peu marre de faire des podcasts.
Non.
Donc, on a arrêté.
Non, toi, Pablo, t'en avais pas marre.
Non.
Moi, j'en avais un peu marre, donc j'ai arrêté. Mais en fait, j'ai arrêté au moment où on devait vraiment arrêter parce qu'il n'y avait plus le confinement.
Et il fallait retourner à l'école ?
Et non. C'est surtout qu'en fait, le corona avait... En fait, avant, il touchait beaucoup de personnes. Et maintenant, à un moment, le corona, vers mai-juin, il s'est adouci. Et du coup, on n'a pas eu vraiment de choses pour nous baser. Et du coup, on a arrêté. On a arrêté, mais on a arrêté à l'épisode 9. Et en fait, y a des gens, ils nous ont demandé de continuer. Donc, du coup, on a fait l'épisode 10 et c'était le dernier. Et...
Vous aviez des fans?
Oui. En fait, c'était surtout les auditrices de...
Bliss
de... Non, les, oui, de Bliss et leurs enfants. Ou celles qui étaient abonnées au compte Instagram de maman. Donc, elles nous ont demandé si on pouvait faire un dernier épisode.
Et vous vouliez raconter quoi, alors, dans ces épisodes?
Comment fonctionnait le corona, ce qu'on devait faire, ce qu'on fait pendant le confinement, parce qu'on avait lu des choses dans le Petit Quotidien qui étaient très impressionnantes pour le corona. Après, on a fait notre podcast et on suivait pas les choses qui étaient écrites. Et donc, voilà.
Surtout, en fait, avant chaque, par exemple, le jeudi, la veille, on avait un post-it et on devait remplir deux post-it et on prenait des notes. Et après, on les faisait. Et aussi, on donnait des idées pour se protéger, mais des idées qu'on pouvait pas faire. Mais il y a une dame qui a eu la même idée que nous et qui l'a fait. En gros, elle a construit une énorme robe.
Non, mais c'est moi qui ai eu l'idée. J'ai eu l'idée de construire une énorme robe de soirée et donc personne ne peut s'approcher en rigolant.
Ouais.
Mais en fait, il y a une dame qui l'a vraiment fait.
Ah,
elle
bon
a construit une énorme robe de soirée et comme ça, en soirée, elle ne peut plus mettre son... Elle met pas son masque.
Ah, c'est le geste barrière par la robe.
Oui, mais sauf qu'elle fait 1m30 de distance à la robe.
Et tu crois qu'elle avait écouté Radio Corona?
Non.
Non, c'est juste qu'elle avait entendu l'idée de mon idée de faire l'énorme robe de soirée. Et donc, elle s'est dit, pendant les soirées, c'est pas cool de mettre notre masque.
Sauf qu'il n'y avait pas de soirée, en fait.
Oui, mais...
et on a toujours
plus. Et puis, du coup, on ne peut plus danser de slow, alors.
Oui.
Comment on fait?
En fait, on n'est pas obligé de danser des slow.
Et est-ce que vous savez si vos copains ou votre maîtresse, elle a écouté Radio Corona?
Moi, ma copine, elle a écouté Radio Corona, mais je ne sais pas si les autres ont écouté Radio Corona.
Et tu lui as fait passer des petits messages?
Surtout que, en fait, dans le premier ou le deuxième, elle a dit moi, par exemple, ma copine, ma meilleure copine, Mao, souvent elle porte pas le masque, elle va chez des invités et tout. Et du coup,
l'a entendu. Dit,
oui. Moi, ma maîtresse, je sais qu'elle a écouté Cornebidouille, mais je crois pas qu'elle ait écouté Radio Corona.
Et c'est quoi alors Cornebidouille?
Cornebidouille, c'est un podcast que, avec Paradisio et l'école de loisirs, on a fait.
Et nos petits cousins, maintenant, ils sont fans. Surtout notre petit cousin qui s'appelle Gaspard, mais aussi notre petite cousine. Tous les deux, ils sont fans. Dès qu'ils écoutent Cornebidouille, ils chantent et ils connaissent par cœur la chanson.
Et donc... du coup, ils entendent la voix de Pablo.
Oui.
Parce que Pablo, du coup... T'as enregistré?
Je fais les chansons et surtout je fais le héros Pierre. Mais aussi, je vous lance un défi à tous, c'est de retrouver la voix de Thelma dans Cornebidouille.
Car Thelma aussi, t'es dedans.
Oui.
Et ça t'a plu? Ça vous a plu cette expérience?
Oui, c'est très très très
bien. Qu'est-ce que vous avez aimé?
En fait, on est allé dans un studio et moi, je m'ennuyais. Et donc, quand elle m'a dit que je pouvais faire des voix d'enfant, j'ai adoré. Et donc, j'ai fait des voix d'enfant.
J'ai tout adoré dans Cornebidouille. Les studios, les endroits où on faisait... Les podcasteurs, les réalisateurs, les producteurs, toute l'équipe, ils étaient très très sympas. Et j'ai adoré, mais vraiment adoré faire ce podcast. Et
ça t'a donné envie d'en faire d'autres?
Oui.
Tu voudrais en faire ton métier?
Non.
Ah.
Je pense qu'il devrait être dessinateur. Et en plus, il veut être dessinateur.
Mais tellement,
mais quoi, c'est vrai?
Mais il y avait une question sur le métier après.
On la reposera.
D'accord.
Il n'y a pas de soucis. Et du coup, dans Radio Corona, vous dites à un moment, Zoom, ça nous a... on n'est jamais en classe avec... on n'est pas dans la même classe parce que toi, Thelma, t'es en...
CM1.
Et toi, Pablo, t'es en...
CM1.
CM1. Et du coup, ça vous a permis de voir comment l'autre travaillait avec sa maîtresse.
Oui, ça nous a permis de voir comment l'autre travaillait. Et bah, parce qu'on se voyait quand on faisait les Skype... enfin, quand on faisait les zooms avec notre maîtresse pendant le confinement, par exemple, Pablo, il me voyait quand je faisais mes zooms, et moi, genre, je le voyais.
Bah non, parce que moi, je faisais pas de zoom, en fait, avec ma maîtresse. Et je travaillais... En fait, elle nous envoyait des fiches PDF.
Oui, bon...
Et après, je les recevais et je faisais mon travail. Et après, je les renvoyais à la maîtresse.
Et Thelma, qu'est-ce que tu as remarqué sur ton frère alors quand il travaillait comme ça avec sa maîtresse ?
Bah, il travaille bien et bah, ça nous a permis comme ça de plus nous voir. Et c'est aussi, en même temps, c'est le moment qui nous a le. Moi, c'est le moment qui m'a le plus plu parce que mon frère, souvent, il est très énervant avec moi et donc il joue pas avec moi. Mais pendant le confinement, bah, on jouait ensemble et bah, on faisait des villes entières de Playmobil et c'était cool. Et bah, mais je pense que c'est parce qu'on avait moins de travail, on faisait un moment le zoom, mais sinon on n'avait pas de travail. Donc on pouvait plus voir à quoi on pouvait jouer et pas jouer le soir. Parce que le soir, on n'a pas beaucoup de moments, donc on ne peut pas vraiment voir à quoi on veut jouer.
Et alors, c'est mieux ou moins bien que faire la classe à l'école ?
C'est mieux. Ouais. Parce qu'en même temps, tu fais du travail. Après, quand tu as terminé, bah, tu es libre en fait. Tu peux aller jouer. Et par exemple, les récréations... C'est bien, t'as tes amis, mais des fois, tu sais pas vraiment quoi faire. En fait, parce que des fois, faire du foot tout le temps, et bah, au bout d'un moment, même si moi j'en fais pas, mais enfin, au bout d'un moment, ça doit être épuisant. Et là, moi, je faisais 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi de voir, et après, j'étais tranquille.
Et toi, Thelma, qu'est-ce que tu préfères alors ?
Bah, moi, en même temps, j'aime bien voir mes amis à l'école, mais ça n'a rien changé, en fait, parce qu'avec ma copine, bah, comme on habite tout près...
Elle se voyait tous les jours.
En fait, oui, on se voyait tous les jours. Il y a une cour, et on se voyait tous les jours. Donc, en même temps, je pouvais rester à la maison et jouer, et en même temps, je pouvais jouer avec ma copine. Donc, c'était... Bah, c'était cool.
Et tu lui parlais... Vous aviez un jeu, non, avec ta copine pour vous parler ?
On avait des talkie-walkie.
Ouais.
Oui, on utilisait parfois des talkie-walkie. Et surtout, on faisait du vélo, de la trottinette dans la cour d'à côté. Et on n'était pas du tout en cas Covid. On mangeait notre masque et bah, c'était cool. Mais maintenant, l'école, ça a repris. Et maintenant, je vois toutes mes copines et c'est aussi cool.
Et moi, en fait, je pense que... En fait, je préfère l'école à la maison que l'école. Mais je préfère aller à l'école que rester à la maison. Parce que, enfin, au bout d'un moment, c'est...
C'est énervant.
C'est...
Et pourquoi ?
Parce que, les amis... Surtout, et aussi la maîtresse, enfin, quand, ok, tu peux les quitter un mois, mais 4 mois d'affilée, bah, ça, au bout d'un moment, ça devient un petit peu...
Énervant.
Énervant.
Le dilemme algorithmique.
C'est BB8.
Alors,
qu'est-ce que tu dis, Pablo ?
Que, en fait, dans le jingle, il y avait R2-D2 et BB8. R2-D2, c'est le moment dans l'Empire contre-attaque. Et BB8, c'est le moment où il se fait capturer dans le retour des Jedi, dans l'espèce de monstre là, qui veut l'emporter.
Bravo, t'as une bonne oreille. Hein. Alors, Thelma et Pablo, est-ce que vous pensez, quand on est adulte, que c'est mieux de conduire une voiture tout seul ou un robot qui la conduise à notre place pour pouvoir faire d'autres choses pendant ce temps-là ?
Je pense qu'on doit la conduire tout seul parce que les robots, ça utilise beaucoup d'électricité et on doit économiser l'électricité alors que nous, on n'a pas de l'électricité dans le ventre et on parle pas comme des robots. Et donc, je pense que c'est mieux qu'on conduise, nous, notre voiture au lieu qu'un robot la conduise.
Moi, en fait, j'aimerais bien vivre l'expérience de conduire une voiture, mais j'ai toujours peur, en fait, qu'il m'arrive quelque chose. Par exemple, que je me crache un jour. Et en fait, les accidents en voiture, ça peut être terrible. Parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et sur, je dirais, 95%, tu vas à l'hôpital.
Et tu penses qu'avec un robot, il y aurait moins d'accidents ?
Ça dépend quel robot, en fait. Parce qu'un robot, en fait, faudrait avoir des preuves. Faudrait avoir des preuves parce que si t'as pas de preuves, tu sais... Parce qu'un robot, ça peut pas être parfait parce que rien ne peut être parfait et ça peut toujours faire des erreurs comme nous et il peut avoir des problèmes, mais ce serait pas possible de créer un robot sans qu'il fasse pas d'erreurs. Et du coup en fait j'aimerais bien un peu les deux, mais j'aimerais bien conduire la voiture tout seul. Ouais,
en fait je pense qu'il aimerait bien qu'il fasse pas d'accident, qu'ils savent qu'il va pas faire d'accident, et comme ça il va être sûr. Mais je pense pas que ça existe de voir dans le futur.
On pourrait créer une machine à aller dans le futur comme la DeLorean.
Et à votre avis, les enfants, si qui serait responsable si le robot fait une erreur?
Moi, parce que c'est moi qui ai décidé que le robot il aille dans la voiture. C'est moi qui a décidé de pas conduire tout seul.
Le responsable, c'est celui qui a dit que le robot devrait conduire la voiture et par exemple, il y a des gens qui veulent pas qu'il y ait un robot dans la voiture et que les personnes conduisent toutes seules, mais il y en a un qui est sûr qu'il faut mettre un. Enfin, il y en a un qui est sûr qu'il faut mettre un robot. Et si le robot casse une voiture ou il fait un accident, ça sera sa faute.
En fait, ça dépend. Lui. Si le robot fait une bêtise, c'est de sa faute. Si le robot fait un accident, c'est de la mienne.
Alors, c'est quoi
Parce
la différence
que un accident, c'est moi qui aurais décidé qu'il fasse ça. Mais une bêtise, j'ai pas envie de décider qu'il fasse une bêtise. J'ai pas envie de lui dire va casser un immeuble ou va casser une voiture ou
va casser une personne, une vieille, ou roule sur une dame qui est dans la rue, une vieille dame qui est en train de passer sur un passage.
Ou embêter les enfants à la sortie de l'école. c'est je vais pas lui demander ça, moi.
Et si jamais il fait ça, alors du coup c'est la faute de qui?
De lui.
Et c'est la faute de lui, mais s'il a pas fait exprès, c'est la faute de personne. Parce qu'on peut tous faire des bêtises, mais on fait presque jamais exprès.
Mais un robot ne peut pas ne pas faire exprès d'embêter des enfants à la sortie de l'école.
Et pourquoi?
Oui, mais c'est toi, c'est parce que tu vas pas. C'est comme si moi, je renversais le pot de fleurs et je dis j'ai pas fait exprès. Ou je saute par la fenêtre et je dis j'ai pas fait exprès. Et c'est comme si un robot allait embêter une vieille dame et il dit j'ai pas fait exprès.
Et si alors le robot il devient fou s'il fait tout ça, on en fait quoi?
On lui jette un seau d'eau sur la tête, comme ça il explose et après on l'embête.
Ah bon, vieux conseil.
Oui, mais je te préviens que l'eau et l'électricité ça fait une.
Comme ça il est.
Toute la ville va être en fumée.
Oui, sinon tu l'emmènes chez toi et je sais pas moi.
Et tu l'enfermes.
Oui, non, tu le mets dans les toilettes et tu tires la chasse. Après il va aller dans les égouts, il va.
Ou sinon, s'il y a un bouton on ou off, on l'éteint.
Ouais, c'est plus simple.
Tout simplement.
Donc là, avec Marine, on va vous poser des questions. Et vous répondez, quand vous en avez marre de répondre, vous dites swipe. Ou si vous ne savez pas quoi répondre, vous dites swipe. Et on passe à la question d'après.
D'accord.
D'accord. Ok.
Pablo, à Noël, j'ai cru savoir que tu avais une Switch. Et à quoi tu joues sur ta Switch?
Moi, je joue à surtout un jeu. Je joue à Fortnite et des fois, je m'amuse et je joue à Mario Kart ou à Animal Crossing.
Et du coup, tu as une limite de temps ou pas sur, sur ton nombre d'heures de Switch par semaine ou c'est plutôt cool?
En fait, je peux jouer une heure le vendredi et les autres jours, c'est les parents qui décident.
Et alors, c'est quoi généralement?
Généralement, c'est une heure le vendredi, une heure le week-end.
Qu'est-ce qui te plaît dans les jeux vidéo?
Swipe.
Swipe. Et alors toi, Thelma, pendant que Pablo y joue à la Switch, tu fais quoi?
Bah, en fait, moi, je regarde plutôt des dessins animés, mais comme hier, j'étais malade, donc je suis restée à la maison, mais j'ai regardé beaucoup de dessins animés. Donc, ce matin, eux, ils ont fait de la Switch avec le copain de Pablo. Et donc, moi, j'ai pas regardé de dessins animés parce que j'en avais déjà fait assez.
Et Thelma, si on te donnait des super pouvoirs de codeuse, tu créerais quoi comme robot?
Je sais pas ce que ça veut dire une codeuse.
C'est quelqu'un qui programme des robots.
Je voudrais qu'ils soient. En fait, qu'on ait une télécommande et que on peut le commander. Il y aura des boutons assis, debout. Et comme ça, on pourra le télécommander et on pourra lui apprendre des choses.
Et tu voudrais lui apprendre quoi?
Parler d'autres langues. Bien dessiner, bien danser, faire de la gym comme c'est ma passion. Et pas trop réclamer d'écran.
Pas trop réclamer d'écran? C'est ça que tu as dit? Pourquoi?
Parce que moi, ce que je pense des écrans, en fait, c'est parce que les écrans, on peut en regarder un peu. Mais sinon, quand on regarde trop, après, ça fait mal à la tête, ça donne mal aux yeux. Et donc, c'est pas très bon pour la santé. Et donc, après, on est obligé d'aller chez le médecin. Et donc, c'est pas rigolo.
Et du coup, le robot dont tu nous as parlé, finalement, ce serait comme un nouvel ami?
Oui. Mais s'il fait des bêtises, j'aimerais faire un bouton off et on et je l'éteins.
D'accord. Et toi, Pablo, si tu devais créer un robot, il ferait quoi?
En fait, moi, je crée déjà un robot parce que le mardi, comme atelier, il y a des choses qui s'appellent l'étape où je reste. Et en fait, on programme des robots. Il y en a un qui s'appelle Bob et il y en a un qui s'appelle Max. Et Bob, il doit avancer, il tombe et Max, il doit le récupérer pour pas qu'il tombe par terre. Et en fait, mais en fait, c'est pas vraiment des robots qu'on programme. Enfin, si on les programme, mais juste ils avancent et ils posent des sols pour pas que l'autre y tombe. Mais sinon, si je crée un robot, je pense que. Déjà, il trie mes cartes Pokémon. Et. Swipe.
Swipe.
Petite question comme ça, parce qu'on a parlé du bouton on-off récemment. Est-ce que sur les vrais amis, il faudrait aussi un bouton on-off?
Non, je pense pas. Je pense pas, parce que sur les personnes, on peut pas éteindre les personnes. Parce que les personnes, c'est pas un objet, c'est un humain. Je pense ça n'existe pas de mettre des boutons on et off pour arrêter le cœur ou... ça n'existe pas. C'est comme ça n'existe pas les lions qui ont des cornes et qui ont une queue de lapin.
Je sais que c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais j'aimerais bien mettre tout le monde sur off.
Et pourquoi?
Comme ça, tu serais tranquille un peu.
Oui, un petit peu. Je pourrais me balader et faire plein de choses. Mais en fait, pas tout le monde, vraiment. Enfin, que les gens qui m'embêtent, en fait.
Il y en a beaucoup?
En fait, avant, j'avais un ami... on était très amis et maintenant on est plus du tout amis et même lui j'aimerais des fois j'aimerais vraiment le mettre sur un bouton off.
Et alors Thelma et Pablo, est-ce que vous aimeriez aller sur Mars?
En fait moi j'aimerais pas trop aller sur Mars mais surtout sur d'autres planètes comme Uranus, le Soleil et Kepler-452b.
Et pourquoi celle-ci plutôt que sur Mars?
Parce qu'en fait, Mars, ça fait longtemps qu'on en parle. Au bout d'un moment, c'est un peu banal.
Ah. Moi, j'aimerais bien aller sur des planètes aussi, mais surtout sur la Lune, parce qu'il paraît que sur des planètes, certaines planètes, comme il y a de la gravité, quand on saute, ouais. On saute très haut. On peut pas toucher le sol, on peut pas rester assis. Quand on touche le sol une seconde et après on rebondit.
C'est donc génial pour une gymnaste, ça.
En fait, sur toutes les autres planètes aussi, parce que c'est la même chose.
Je pense pas que t'aimerais aller sur le soleil, parce que à 500 000 km du soleil, t'es mort.
Je peux aller à la vitesse lumière. Et la vitesse lumière, ça prend 12 minutes. 12 minutes pour aller au soleil.
Ça va être rapide hein, comme voyage.
Oui, c'est vrai.
Alors que normalement, pour aller au soleil, on prend une année.
Alors que Kepler 452b, c'est 1400 années-lumière.
Et c'est quoi?
C'est une planète. En fait, c'est la cousine de la Terre. Et en fait, peut-être qu'il y aurait peut-être des habitations ou des humains, enfin des formes vivantes.
Sur cette planète?
Oui, elle est un peu plus grande que la Terre, mais...
Et donc peut-être que quand vous serez grand et que vous aurez des enfants, vous irez en vacances là-bas, tu crois?
Je pense pas, sur Kepler 452b, non, mais...
Je pense pas qu'on va avoir une fusée et qu'on va aller dans l'espace.
Et alors, est-ce que vous connaissez Elon Musk?
Quoi?
Est-ce que vous connaissez Elon Musk?
Non.
Elon Musk, c'est une personne?
Oui. C'est une astronaute?
Elle est fan d'Elon Musk.
Elon Musk. Alors, qui c'est Elon Musk? C'est celui qui a inventé déjà Tesla, les voitures électriques. Et c'est celui qui a créé SpaceX, qui justement essaye d'envoyer des navettes spatiales sur Mars. Alors moi, je crois qu'après le podcast, je vais lui envoyer un petit tweet. Et je vais lui dire qu'en fait, c'est trop has-been d'essayer d'aller sur Mars. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est-à-dire quoi, has-been?
C'est genre plus à la mode, quoi. Je vais lui dire, Pablo et Thelma, ils pensent que c'est plus à la mode, Mars.
Quand même, juste aller sur Mars, je pense que ça serait bien. Enfin, juste aller sur Mars pour voir comment c'est, pas forcément pour passer 2 mois là-bas et faire les vacances, aller sur la plage et avoir une maison sur le bord de Mars, mais juste poser le pied sur Mars, ce serait une belle découverte.
Et moi, j'ai une dernière question pour vous deux. Est-ce que vous pensez qu'un robot pourrait remplacer votre maîtresse?
Non, je pense pas.
Pourquoi?
Parce que les robots, parfois, ils savent... En fait, les robots, parfois, ils savent beaucoup de choses. Mais en fait, les maîtresses, parfois aussi, les enfants, ils leur apprennent des choses aux maîtresses. Mais alors que les robots, on dit souvent qu'ils savent tout. Mais peut-être que c'est vrai, et si c'est vrai, moi j'aime bien apprendre des choses à des grandes personnes. Et donc, non, j'aimerais pas qu'un robot soit notre maîtresse.
Moi non plus. Parce que, un robot ça peut pas remplacer une maîtresse. Parce qu'un robot, moi j'ai pas confiance. Enfin, j'ai pas confiance en un robot. Une maîtresse, j'ai confiance en un humain. Mais un robot, il peut faire des choses qui sont pas bien. Donc un robot, d'une minute à l'autre, ça peut se dérégler et faire des choses vraiment, vraiment pas bien. Alors qu'une maîtresse, c'est un humain, elle a passé son bac, elle a tout passé. On est sûr qu'elle va rien faire aux enfants. Et j'ai confiance en une maîtresse. Qu'elle soit sévère, pas sévère, petite, grande, âgée, jeune, j'ai confiance en une maîtresse.
Une maîtresse, c'est un humain, comme dit Pablo, et alors qu'un robot, c'est pas un humain. Donc, il peut pas parler, il va pas parler aux enfants.
T'as peur qu'ils te comprennent pas?
Oui,
le robot?
Parce que le robot, parfois, s'il est pas vraiment bien fait, bah parfois il peut avoir des déréglages et donc pendant qu'il nous apprend quelque chose, bah ça peut faire des dégâts.
Est-ce que vous savez qu'en fait c'est l'être humain qui programme le robot? C'est toujours un être humain qui programme ce que va faire un robot.
C'est pas un robot qui va programmer un robot.
Donc si l'être humain il a des intentions mal, et ben il peut lui faire des choses mal.
Exact. Et s'il a des bonnes intentions, il lui fait faire des bonnes choses.
Oui.
Parce que un robot, il va pas fabriquer un robot, ça serait bizarre. Alors qu'un humain fabrique un robot, c'est pas connu, mais ben, on peut très bien fabriquer un robot nous.
Tout à fait.
Bien sûr, et le programmer.
Le mercredi, et pendant les vacances là, moi je fais beaucoup, énormément même de programmation de robots.
Ah ouais ?
Je fais un atelier qui s'appelle robotique, donc il y a plein de petits robots, et par exemple pendant les vacances on va avoir des robots dinosaures, c'est pas vraiment des dinosaures mais c'est des robots avec... qui ont une armure, des trucs pour faire des combats, des épées, des haches. Et c'est quand même un peu des gladiateurs. On va les mettre dans une arène un peu grande comme la table. Et après, ils vont devoir aller s'attaquer. Et aussi, il y aura des petits trucs qui vont sortir du sol comme des... Il y aura des gens sous l'arène qui lèveront les trucs. Ce sera comme des petits pics. Et après, on va faire des combats de dinosaures. Et les robots, on les programmera sur des ordinateurs.
Génial.
C'est trop bien.
Et en fait, avec ça... Et on peut gagner des coupes. En fait, mon frère, il a déjà gagné une coupe.
T'as déjà gagné une coupe de robot ?
Oui, il a déjà gagné une coupe de robot.
En combat de sumo de robot.
Que t'avais programmé ?
Oui.
Et donc, on fait... Et il y a un atelier qui s'appelle robotique. Et moi, j'ai fait des parcours. On avait mis des chaises, des trucs, des obstacles. On devait faire une course de robot. Et donc, c'était sympa.
Et est-ce que dans votre métier, plus tard, vous aimeriez programmer des robots ? Ou est-ce que vous devriez faire complètement autre chose ?
Complètement autre chose.
Et qu'est-ce que tu aimerais bien faire, toi, Thelma ?
J'aimerais bien faire... En fait, avec ma meilleure amie qui s'appelle Mao, on a inventé un... On voulait être chanteuse. Au début, on voulait être chanteuse. Et on a inventé un groupe qui s'appelle les Thelmao. Et donc, en même temps, j'aimerais faire ça. En même temps, j'aimerais être vétérinaire, scientifique, parce que j'aime bien m'occuper des animaux. Et aussi, j'aime bien faire des sciences, faire des expériences. En même temps, j'aimerais être médecin. Mais si ça existait, j'aimerais bien être dresseuse Pokémon.
Génial.
Si ça existait.
Et toi, Pablo ?
Moi, j'aimerais être dessinateur.
Ah, trop bien.
Dessinateur de BD parce que j'adore le dessin depuis que je suis tout petit et j'aimerais en faire mon métier.
Intéressant.
Un bébé qui est en train de rigoler.
C'est exactement ça. Alors du coup, moi j'avais une question. Je crois que vous avez des petits cousins et des petites cousines. D'ailleurs, vous en avez parlé un peu plus tôt. Vous qui êtes un peu plus grand, vous aimeriez leur dire quoi par rapport aux écrans, aux jeux vidéo, aux robots? À quoi ils doivent faire attention et sur quoi ils doivent foncer?
Moi, j'aimerais leur apprendre à pas jouer avec les écrans, leur dire de pas se servir des écrans tout seul. Que si on veut faire des écrans, on demande à un parent. Moi, je pense que les jours de la semaine, on n'a pas le droit. Mm-hmm. Que le vendredi, on a le droit et le week-end aussi. Et je pense qu'on devrait faire ça. Et que les petits cousins, ils arrêtent de regarder trop d'écrans. Parce que souvent, moi, ma petite cousine, elle veut tout le temps regarder Peppa Pig. Parfois on lui dit non, parfois on lui dit oui, et tellement elle avait tellement envie de regarder des dessins animés, un jour, elle a même pas fait sa sieste. Et donc, je pense qu'ils devraient être moins accro aux écrans
les enfants,
mais surtout les petits cousins ou les petites cousines, ceux qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans.
Pour te dire,
ça peut leur faire encore plus mal aux yeux.
Ouais.
Bah, ils sont normalement à partir de 4 ans, on n'a pas le droit de regarder des... enfin
avant 4 ans, tu veux
oui,
dire.
Avant 4 ans, on n'a pas le droit de regarder des écrans. Et donc parce que ça peut faire mal aux yeux. Et donc on respecte pas ces règles. Alors que c'est des règles qui sont importantes pour les enfants de 3 ans, de 2 ans ou d'un an.
Et est-ce que Pablo, pour toi, il y a d'autres règles qu'il faudrait mettre pour les...
Je veux juste reprendre quelque chose de tellement... Nos petits cousins ne sont pas du tout accros aux écrans. Tellement ils sont pas du tout accros aux écrans. Ils en font que quelques-uns quand nous on est là, mais sinon ils sont pas du tout accros.
Ils veulent être accros aux écrans avec moi.
Non, quand t'es là, des fois elle regarde un petit peu des dessins animés, mais elle est pas accro aux écrans.
Peut-être qu'avec toi elle est pas comme ça, mais avec moi elle est comme ça.
C'est quoi être accro aux écrans?
Bah c'est être obsédé par les écrans et accro, ça veut dire qu'on veut plus quitter son portable, son téléphone, les dessins animés, et donc.
Mais vous avez ça? Vous avez un portable?
Non, mais en fait j'ai un exemple. Qu'il faut pas du tout faire. Le grand cousin de ma copine Mao, la mère de Mao, elle le gardait.
Ouais.
Il a pas bougé du canapé pendant toute la journée. Il a mangé sur le canapé en regardant son portable.
Ouais.
Il a pas quitté son portable sur le canapé.
Et du coup, est-ce que tu penses aussi que les adultes,
il a même pas bu.
Ah bon?
Il est pas allé aux toilettes. Il a pas bu.
Il a mangé sur le canapé et il a regardé son portable tous les...
Et est-ce que, du coup, vous pensez que nous, les adultes, on est trop accros aux écrans?
Ça dépend lesquels.
Par exemple, ma maman, elle est beaucoup trop accro aux écrans. Mais en fait, c'est pas qu'elle est vraiment accro aux écrans, c'est parce que c'est son travail.
Bah oui.
Mais en plus, ce que je trouve que c'est pas bien, c'est que ça lui fait mal aux yeux aussi. C'est pour ça que le soir, elle est fatiguée. Elle travaille jusqu'à 1h du mat, de la journée, du matin jusqu'à 1h du mat.
Ouais.
Et ben moi, je trouve que c'est pas bien. Même les adultes, ils doivent regarder moins d'écran. Et les adultes qui regardent pas du tout d'écran, je pense qu'ils devraient en garder un tout petit peu.
Ouais.
Mais en même temps...
Pourquoi? Ils doivent en regarder un petit peu.
Parce que quand même, sur les écrans, parfois, on peut apprendre des choses.
Ah, comme quoi?
Parfois, il y a des documentaires et c'est des écrans. Par exemple, Pablo, il regarde parfois des documentaires sur des choses et c'est un écran, c'est une vidéo. Mais parfois, c'est pas bien, donc c'est pour ça qu'il faut pas trop en regarder.
Moi, je pense que un adulte, en fait, c'est... Ça doit avoir un téléphone, parce que si ça n'a pas de téléphone, en fait, il peut pas vraiment se renseigner, il peut pas communiquer avec ses amis s'il y a un problème, il peut pas, même pas forcément pour regarder des vidéos ni rien, hein, mais juste pour communiquer et avoir les nouvelles, parce que si tu restes dans ta maison comme ça, et par exemple qu'il y a un gros problème, qu'il y a un incendie en bas de chez toi, qu'il faut évacuer, et que personne ne va pouvoir t'envoyer un texto. Ou t'appeler et te dire il y a un problème, il y a un incendie, tu vas arriver là, il y a l'incendie, il va venir, et là, t'auras même pas de chance de survivre. Hein. À part si tu sautes par la fenêtre et que t'arrives sur un trampoline et après que t'arrives directement à l'hôpital, mais je pense pas que ça va se faire.
Bah oui, parce que si quelqu'un voit qu'il y a un incendie en bas de ton immeuble, et bah, il t'envoie un message sur le téléphone, mais si t'as pas de téléphone, tu sais pas. Et donc après, tu vois du feu devant ta fenêtre, et donc ça te fait un choc. Moi, si j'étais quelqu'un comme ça, j'aurais dit, mais pourquoi ils m'ont pas donné un message? Mais c'est un peu, en fait, de leur faute, parce qu'ils ont pas de téléphone.
D'accord. Tu veux dire, vas-y Pablo.
En fait, je pense que t'as pas besoin d'un iPhone, mais t'as besoin d'un téléphone fixe au moins. Pas forcément un téléphone. Moi, par exemple, j'ai un téléphone fixe. Mais
c'est comme ça que t'appelles tes copains?
Non, c'est comme ça que j'appelle mes parents quand je suis en colonie de vacances.
D'accord.
Ou qui me laisse tout seul pendant 2 heures à la maison tout seul. Mais en fait, parce que au moins pour communiquer. Et en plus, le téléphone fixe, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que les iPhones. Et pour envoyer des textos et pour appeler, c'est quasiment la même chose.
Et alors, Pablo et Thelma, si on veut être aussi connus que Radio Corona avec notre podcast Philosophie, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec Solène ?
Bah, il faut dire des choses importantes qui intéressent beaucoup de personnes. Bah, il faut qu'on envoie, par exemple, notre maman, elle a envoyé sur un site Bliss où il y a beaucoup de personnes qui regardent. Donc, c'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'écoute. Et donc, je pense qu'il faudrait faire des choses intéressantes, qu'on l'envoie sur un site connu et que, bah, et comme ça, il y aura beaucoup de personnes qui le voient et qui entendent des choses intéressantes et donc ils vont s'abonner.
Ouais.
Et donc, bah, ça va faire beaucoup d'écoute et donc ça sera bien.
Et toi, Pablo ?
Moi, je peux vous donner 5 conseils pour que...
Ah bah ouais, on les prend.
Premier conseil... Déjà, faut que tu contactes tes amis et après, comme ça, tu leur dis « j'ai un nouveau podcast qui est sorti ». Par exemple, tu peux avoir un ami qui n'a pas le même ami que toi ou qui a d'autres amis. Il faut le plus dire à tes amis qu'il y a un nouveau podcast qui est sorti. Comme ça, ça va passer dans le monde. Aussi, deux, tu peux publier des choses pour dire que tu as un nouveau podcast. Trois, faut que ton podcast il soit bien et qu'il n'y ait ni trop d'épisodes comme 1000 ni pas assez comme 2 ou 3 et 4 faut que ton podcast il soit bien, qu'il parle de plein de choses, qu'il parle un peu de tout. Et 5, bah, dans ton podcast faut être cool. Voilà.
Merci, Pablo.
Alors, je vous propose un petit challenge. Quand on a écouté à Radio Corona, on a entendu que vous faisiez du pixel art et des dessins. Et toi, Pablo, tu nous as même dit que tu voulais être dessinateur. Alors, on vous propose, pendant qu'on pose quelques questions à votre maman, de chacun faire un dessin qui représente l'émission.
Quelle émission ?
Celle qu'on vient d'enregistrer. Si vous deviez faire un dessin...
Un dessin ou un pixel art ?
Comme tu veux.
Comme vous voulez.
Comme vous voulez.
Mais ça s'appelle comment ?
Philosophie.
Je sais ce que je vais faire, mais j'aurais besoin de savoir comment ça s'écrit.
On va te l'écrire.
Bien sûr, Thelma.
Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions.
Bravo.
De rien.
Merci Clémentine de nous avoir laissé Pablo et Thelma derrière nos micros.
Mais je vous en prie, c'est un plaisir.
Alors avec ton podcast Bliss, tu connais la rude loi des algorithmes, que ce soit sur les plateformes d'écoute ou sur les réseaux sociaux. Et nous, on avait envie de savoir comment t'envisageais ces algorithmes dans la vie de tes enfants.
Oui, alors c'est vrai que moi, avec Bliss Stories, en fait, dès le départ, j'ai choisi de faire vivre ces témoignages de femmes sur Instagram. D'abord parce que c'était une source pour moi de découverte d'histoires, de profils de femmes incroyables. En fait, j'en ai vu que les bons côtés. Au départ, et il y en a de très nombreux, hein, on ne va pas se mentir. Moi, j'ai découvert des parcours de vie incroyables parce que les femmes se racontent beaucoup sur Instagram. Donc, c'est vrai que c'est un outil dont je me sers quotidiennement, d'ailleurs beaucoup trop à mon goût et à leur goût. Hein. C'est vraiment, ça prend beaucoup, beaucoup de place dans ma vie. Parfois, j'aimerais...
Déconnecter.
vraiment jeter mon portable et être moins reliée en fait à ce réseau et aux algorithmes qu'il compose parce que, évidemment... on est accro à savoir si le message est bien passé, du coup, combien il y a eu de likes, quels sont les commentaires, comment ça fait réagir. Bizarrement, parfois, il y a des posts qui ne passent pas du tout, qui sont complètement, qui partent aux oubliettes, on a l'impression, on ne sait pas pourquoi. D'autres qui, au contraire, génèrent des milliers de likes. J'ai jamais vraiment très bien compris comment c'était foutu, honnêtement. Je suis pas très, peut-être pas assez suffisamment geek pour aller essayer de déjouer l'algorithme Instagram. Souvent, je vois que ça sort sur, quand je suis d'autres. je suis évidemment plein de comptes. Et souvent, je vois des nanas qui se plaignent de cet algorithme et qui poussent un peu des coups de gueule en disant « Mais je comprends pas, tel poste, vous êtes passé complètement à côté. » Moi, j'avoue que c'est pas ma priorité. Du moment que le message passe, bon après, s'il atteint 2000 ou 10 000 personnes, déjà, s'il en atteint 2000, c'est cool.
Ouais.
Tu vois, bon après, évidemment, s'il en atteint 10 ou 12, c'est mieux. Mm. Mais je sais tellement pas, en fait, je me sens tellement impuissante face à ça que j'avoue, jamais cherché à le déjouer, quoi.
Parce que donc là, tu parlais principalement d'Instagram et avec Bliss, mais finalement, quand on regarde Netflix, les propositions que t'as, c'est aussi avec des algorithmes.
Oui,
si on regarde les autres réseaux sociaux, alors si on va parler de Facebook, mais TikTok, c'est la même chose. Et du coup, par rapport à la vie de tes enfants, et ce qu'ils vont regarder va engendrer qu'ils vont avoir que des choses qui vont être leur proposer du même type. Qu'est-ce que ça t'inspire et comment tu essaies de les déjouer du coup pour ouvrir à d'autres choses?
Ça inspire beaucoup de peur, hein, franchement. Enfin, c'est terrifiant quand tu vois que quand tu fais une recherche sur Google, tu la retrouves bizarrement sur tous les sites que tu vas consulter dans les jours qui suivent, ou même quand tu parles à côté de ton téléphone d'une destination de vacances, d'un produit, par exemple autour de la période de Noël, quand on parle de produits consommables, de jeux, de je sais pas quoi, ah tiens, bizarrement, t'ouvres ton Facebook ou ton je sais pas quoi, et d'un coup, tu te retrouves tout ce dont t'as parlé au dîner de la veille sur ton ordi, c'est vraiment flippant. Comment déjouer ça? L'important, c'est de leur donner leur libre arbitre, d'éveiller leur conscience, d'éveiller leur propre centre d'intérêt, leur propre curiosité, et de ne pas se laisser laver le cerveau par tout ce qui va leur être comme ça proposé en push.
Et ça passe par d'autres activités qui sont pas forcément liées aux écrans, du coup, pour toi?
Ah oui, bien sûr. Bah, nous, on essaye de limiter un maximum. C'est-à-dire que les règles sont très strictes. Ils savent que pendant la semaine, c'est niette, à part éventuellement le vendredi soir ou le mercredi, quand tous les devoirs sont faits et tout ça. Régulièrement, on supprime carrément la souhaite. Je peux citer régulièrement on supprime la Switch, hein. c'est un bon levier n'est-ce pas de punition, parce que c'est un peu le seul truc en fait qui peut jouer dans la balance et qui peut faire qu'un comportement va s'améliorer. Donc honnêtement, on n'hésite pas.
Je crois que Marilyn, tu connais ça.
Mais écoute, j'ai l'impression qu'on a la même vie, Clémentine. Moi, le mien, il a 10 ans.
Oui,
les mêmes leviers. Et c'est pareil, et on en est venu à mettre des bonus-malus de temps d'écran en fonction des notes pour le week-end.
Ouais.
Donc on fait pareil.
Bien sûr.
C'est génial.
Un mauvais comportement va entraîner un jour en moins de Switch. Et vraiment, on n'hésite pas. Alors parfois, mais bon, moi je suis un peu... Parfois, je suis trop sympa et je cède devant des yeux de chien battu. Mon mec est beaucoup plus strict et d'ailleurs, je l'en félicite parce que lui, vraiment, il n'hésite pas à planquer l'objet, voire à l'embarquer avec lui au boulot l'objet ne soit même pas
visible
entre les murs. Parce que, tu vois, parfois, il suffit
aucune tentation.
De savoir, en fait, même planquer dans un placard, ça suffit à ce que l'enfant pète un plomb.
Oui.
Donc, voilà, au moins s'il n'est pas dans l'enceinte de l'appart, psychologiquement, ça aide en fait. Et moi, ça m'aide parce qu'au moins, je sais qu'il n'est pas là. Et du coup, je n'ai même pas de stress. Mais c'est fou en fait qu'on en soit là, à devoir s'éloigner. Comme quand je veux jeter mon portable, je voudrais jeter cette Switch aussi.
Et pour te dire, ce matin, mon mec m'a demandé d'emmener les Switch avec moi.
Ah ben voilà.
Et j'ai dit non quand même. Il dit non, là je le sens pas, ils vont me harceler. Emmène-les dans la voiture.
Non mais quelle angoisse. Non mais à quoi on en est réduite?
Et du coup Clémentine, tu penses que sur la reconstruction, leur vie future, effectivement, comment on va les aider évidemment à garder l'esprit critique, hein, à utiliser en pleine conscience, se disant qu'il y a toujours un algorithme ou... ou un usage derrière pour des marques, etc. Comment est-ce qu'on peut faire pour les aider à grandir comme ça, les enfants ?
Tu me poses une colle, vraiment, parce que je n'ai pas la solution. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. D'un côté, je me dis, tu sais, j'avais entendu une fois à une conférence que, alors le chiffre était énorme, mais et d'ailleurs, ça me paraît beaucoup, mais en tout cas, c'est Cyril Dion qui disait ça. Il disait que 80% des métiers de demain, donc les métiers que feraient nos enfants, nos petits-enfants, n'existent pas aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
Bon, ce chiffre me paraît dément, mais à la fois, j'ai tendance à avoir confiance en Cyril Dion. Donc voilà, quand tu pars de ce constat-là, tu te dis, bon, ok, il ne faut pas non plus agir de manière trop réactionnaire et se dire non, je veux supprimer les écrans de la vie de mes enfants. C'est impossible. Je veux dire, leur vie va être tournée autour de ça, leur métier certainement. Voilà, donc l'idée n'est pas de couper le robinet. L'idée est qu'ils sachent s'en servir de la meilleure façon possible et qu'ils trouvent peut-être qu'ils en trouve aussi des bénéfices, enfin, peut-être pour se construire des métiers futurs. Moi, je ne suis pas du tout réfractaire à ça. Je veux dire, je suis la première à passer ma vie devant des écrans. Et j'adore mon métier et je ne considère pas être complètement lobotomisée du cerveau. Voilà, après, il faut, je pense quand même en permanence qu'ils aient d'autres supports. Donc, voilà, la lecture, le dessin, le sport, évidemment, ça faut garder quand même une activité, des activités extérieures. Mais voilà, le tout, c'est trouver le bon dosage, ce qui va correspondre à tes enfants, à ta vie de famille, et voilà, et que ça convienne à tout le monde. Parce que c'est atroce aussi d'avoir des enfants qui sont dans une frustration permanente. On n'a pas envie de ça non plus. On n'a pas envie de passer pour les parents voilà, tyranniques qui vont être dans l'interdiction totale. Donc voilà, en fait, je pense qu'on avance avec eux. On tâtonne, on teste des trucs. Et puis après, moi, du moment qu'ils sont curieux, éveillés, que la communication perdure, parce que ça... Voilà, moi par exemple, il n'y aura jamais d'écran à table. Donc ça, les repas, c'est toujours un moment d'échange. Et ça, je n'y dérogerai pas. Je peux vous signer un papier, là. voilà.
C'est de créer des moments aussi sans écran oui. Et qui sont des rituels sur lesquels
tu changes ça, pas. C'est...
Alors, comme on n'a pas voulu mettre plein de hashtags et de arrobas dans la tête de tes très jeunes enfants...
Okay, sympa.
D'habitude, on demande aux plus grands d'écrire le tweet de l'émission. Du coup, on te redonne cette tâche.
Donc, ça peut passer par plusieurs hashtags ?
Ouais,
oui, okay. Tu fais comme tu veux.
Ok. Alors, hashtag, on fait comme on peut. hashtag, faisons leur confiance. Aussi. Hashtag... Alors, il y a un hashtag que j'aime bien, c'est let them be little. Que j'aime bien parce que... Faut quand même qu'ils restent aussi dans le jeu et dans l'enfance. Je veux dire, ça fait partie. Nous, on avait d'autres jeux, certes, mais et que peut-être nos parents supportaient pas non plus. Mais ça fait partie aussi de ce moment de l'enfance où, c'est le kiff de passer une heure devant Fortnite. Bon bah, voilà. Pourquoi pas ? C'est leur truc à eux et c'est cool s'ils peuvent aussi en profiter. Faut pas. Voilà.
Merci Clémentine.
Merci beaucoup Clémentine.
je vous en prie, merci les filles.
Et merci de nous avoir accueillies chez toi.
C'était intéressant de parler de ce sujet. C'est rare qu'on se penche sur cette question, mais c'est important. Donc merci.